On va s'immerger ce soir dans l'Italie du Quattrocento, l'Italie du XVe siècle, une Italie qui se présente à ce moment-là comme une mosaïque de territoires. Et on va s'immerger au cœur de ces gouvernements qui tirent leur force de stratégie politique, de stratégie militaire, mais qui tirent également leur force du mécénat. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Italie est une mosaïque de territoires et toutes les commandes, tous les grands chantiers menés par ces princes ont pour but de glorifier leur prestige et leur puissance. Donc c'est un cours avec une dimension politique et idéologique forte. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un bref point sur le contexte historique et également sur le contexte culturel. Le contexte historique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une mosaïque de territoire. Ça, c'est une situation qui est assez ancienne, qui remonte au Moyen-Âge. À partir du XIIIe siècle, il y a des seigneuries qui se mettent en place dans le centre et dans le nord de l'Italie dans un contexte bien particulier. L'Italie, depuis le Xe siècle, elle était sous la coupe du Saint-Empire romain germanique et le pouvoir du Saint-Empire romain germanique se délite petit à petit. Et pour contrecarrer l'anarchie qui règne dans les villes, eh bien, se mettent en place des formes de gouvernement plus autoritaires. Le contexte culturel, c'est celui de la Renaissance. Et le terme n'est pas anodin, il doit nous interpeller. La Renaissance, c'est une nouvelle naissance. Et à ce moment-là, il y a une sorte de mythe qui se crée, un mythe de rupture entre un passé qui étouffe, qui s'étiole, et un renouveau porteur d'espoir, un renouveau marqué par des créations fécondes et prolifiques. Cette Renaissance, elle passe d'abord par un renouveau de l'érudition. Les lettrés de l'époque, les intellectuels de l'époque cherchent à retrouver la substantifique moelle des textes anciens. C'est-à-dire qu'on cherche à s'émanciper des traductions, des exégèses qui ont été réalisées au fil des siècles pour retrouver la pureté des textes originels. Donc on va aller à la source, on va aller retrouver ces textes antiques. Donc au départ, ce renouveau, cette renaissance, ça passe par la philologie, ça passe par la littérature. Et puis cette quête de l'Antiquité, cette quête d'un retour aux sources, elle va irriguer petit à petit les autres disciplines, et notamment l'histoire de l'art et l'art. Alors pour cette période, on a la chance d'avoir le témoignage d'un peintre, mais également d'un historien d'art qui s'appelle Vasari. C'est un artiste du XVIe siècle, et Vasari en fait compose des biographies d'artistes. Et Vasari, il a bien conscience qu'après un Moyen-Âge qu'il juge chaotique, balbutiant, ben, il y a quelque chose qui se met en branle. Il y a une renaissance, véritablement. Et cette renaissance, il l'attribue à deux artistes des XIIIe et XIVe siècles, Cimabue et Giotto. Et il écrit à propos de ces artistes, et c'est assez emblématique. Alors à propos de Cimabue notamment, il écrit « Au milieu de déluges de calamités qui ruina et noya la malheureuse Italie, non seulement avait disparu tout ce qui pouvait porter le nom d'édifice, mais encore, ce qui est plus grave, la race des artistes était complètement éteinte, qu'en acquit, comme par la grâce de Dieu, dans la ville de Florence, l'an 1240, Cimabue, qui devait rendre son lustre à l'art de la peinture. » Et à propos de Giotto, il écrit, et là aussi c'est assez emblématique, « Alors qu'après tant d'années de misère et de guerre, les modes de la bonne peinture et le dessin avait complètement disparu, lui seul, quoique né parmi des artistes imparfaits, les ressuscita, par la grâce de Dieu, et les remit dans la bonne voie. Certes, ce fut un vrai miracle que cette époque, grossière et imparfaite, ait eu le pouvoir de doter Giotto si richement que le dessin, qui n'était pas connu ou bien peu par ses contemporains, revint en vie grâce à lui. » Donc dans ces deux extraits, on a tout un champ lexical de la vie, de la Renaissance, qu'il attribue à un côté presque magique, miraculeux. Et effectivement, ces deux artistes, Cimabue et Giotto, se démarquent des représentations hiératiques et rigides de l'époque en insufflant une plus grande souplesse dans les lignes, une plus grande plasticité dans les formes. Et même dans le cas de Giotto, et là on le voit bien ici, il y a un embryon de perspective dans ces œuvres-là. Quoi qu'il en soit, donc, Vasari insiste sur ce caractère magique, miraculeux, de ces deux artistes. Pour lui, c'est vraiment les prémices de la Renaissance. Donc le XVe siècle, c'est une période intéressante du point de vue de ce renouveau de l'art. C'est une période intéressante également d'un point de vue sociologique, dans le sens où on est à une époque où l'art s'intellectualise. Il y a une progression sociale de l'œuvre d'art, une progression sociale de l'artiste, et cette progression, elle est due à une innovation, ou du moins à une redécouverte, c'est la perspective. Désormais, avec la perspective, la construction de l'image obéit à des lois géométriques. Pour illustrer mon propos, je vous montrerai cette œuvre de l'artiste florentin Domenico Ghirlandaio. C'est une œuvre qu'il peint pour la famille Tornabuoni, pour leur chapelle familiale. Et Tornabuoni était une grande famille de Florence, proche des Médicis. Et dans ce tableau-là, on voit que la perspective permet de camper la scène dans une réalité palpable, donc tangible. Et les commanditaires de l'époque vont être très séduits par ces innovations et évidemment, les artistes qui parviennent à rendre l'illusion de la réalité sont extrêmement prisés de ces commanditaires. Il y a deux protagonistes qui vont conceptualiser cette nouvelle donne, deux architectes, un architecte florentin, Filippo Brunelleschi, et un architecte d'origine génoise, Léon Battista Alberti. Brunelleschi, il démontre le processus perspectivique à Florence. Le procédé est le suivant. On regarde à travers un panneau peint le baptistère. Ce panneau, il représente lui-même le baptistère de Florence. Et en fait, on intercale un miroir entre le panneau et entre le baptistère. Et on se rend compte que les deux images coïncident. Et en fait, la morale de cette petite expérience, c'est la suivante. C'est que tout s'ordonne à partir d'un point fixe. Et à partir de là, tout n'est qu'affaire de géométrie et on peut à nouveau rendre compte la spatialité. Donc, Brunelleschi est connu pour avoir conceptualisé cette perspective et Alberti va écrire tout un tas de traités pour expliquer, d'un point de vue scientifique, de quelle façon les artistes doivent procéder. Donc l'Italie du Quattrocento, elle est marquée par tout un tas d'innovations et par l'émergence d'artistes en tant qu'individus. Dans ce contexte-là, pour les princes de l'époque, il est nécessaire et il est séduisant de s'accaparer ces artistes, de les fixer à leur cour, parce que ces artistes vont pouvoir servir par leurs œuvres la puissance, l'autorité, le prestige de ces princes. D'un autre côté, les artistes ont tout intérêt à faire fructifier ce type de relation, dans le sens où ça leur assure des rentrées d'argent considérables, mais dans le sens également où ça leur assure une certaine reconnaissance et du même coup, ils vont pouvoir créer à leur tour tout un réseau de clientèle. Donc on va tenter de comprendre ces fructueuses relations entre les princes et les artistes à travers un certain nombre de cités italiennes et on va commencer par Florence. Florence au XVe siècle, c'est une cité très, très prospère, c'est l'une des principales villes de l'Europe et la prospérité de cette ville est fondée sur le commerce de la soie, de la laine et sur la banque. À Florence règnent les Médicis qui s'imposent à partir du second tiers du XVe siècle et à l'époque, Florence est un vrai vivier d'artistes. Les expériences, les innovations se multiplient et pour vous montrer à quel point cette ville est effervescente, je vous citerai deux dates, 1401-1418, qui correspondent à deux concours. Et le terme de concours, il est assez emblématique, parce que ça montre bien l'émulation, l'effervescence qui règne alors. En 1401, est lancé un concours pour la décoration de la porte du baptistère. C'est un concours qui est lancé par la Corporation Florentine des Marchands de Laine, qui a à charge l'embellissement de l'édifice. Et c'est un artiste florentin, Lorenzo Ghiberti, qui gagne en présentant cette œuvre-là, le sacrifice d'Isaac. Donc on voit sur cette œuvre, dans la partie droite, Abraham s'apprêtant donc à sacrifier son fils, et puis il y a cette intervention miraculeuse de l'ange qui désigne le bélier, qui en fait finalement sera sacrifié à la place de l'enfant. La scène, elle se détache du fond. elle surgit pleinement dans l'espace du spectateur et ça va séduire les contemporains. Et Ghiberti, donc, va avoir l'opportunité de réaliser cette porte pour le baptistère de Florence. En réalité, Ghiberti va passer plusieurs années à la décoration de l'édifice. Quelques années plus tard, il réalise la porte du paradis, où il abandonne la composition précédente. On avait une forme quadrilobée. Il abandonne cette composition-là pour réaliser des œuvres sur de vastes panneaux de bronze. Et en fait, on a ici une brillante illustration des recherches sur la perspective, puisque par les artifices du relief, eh bien, les différents plans sont immédiatement lisibles pour le spectateur et donc donnent l'illusion d'une spatialité. 1401, donc, concours pour la porte du baptistère, et l'autre date que j'évoquais tout à l'heure, c'est 1418, et là, c'est un concours pour l'achèvement de la coupole de la cathédrale de Florence. Et en fait, c'est Brunelleschi, que j'évoquais tout à l'heure, qui va être chargé de construire ce dôme, et Brunelleschi abandonne toutes les solutions architecturales qui prévalaient jusqu'alors, c'est-à-dire qu'il abandonne l'esthétique médiévale pour se replonger dans une esthétique antiquisante, et les influences de cette antiquité vont éblouir, séduire les contemporains qui vont se gargariser, qui ne vont pas hésiter à justement lier cette influence féconde, lier l'antiquité et la Renaissance. Tout ça pour dire donc que ces deux dates sont emblématiques des enjeux artistiques de Florence à cette époque. Les Médicis s'installent donc au pouvoir dans le second tiers du XVe siècle. Ce sont des gens puissants qui ont bâti une fortune considérable grâce à tout un réseau de banques à travers l'Europe. Et les Médicis sont des esthètes. Donc ils vont collectionner les artistes contemporains de l'époque. Et leurs collections sont très, très importantes et se veulent véritablement un reflet des innovations qui ont lieu à Florence. Les Médicis ont une réelle mainmise sur la ville de Florence et un des emblèmes dans la pierre de cette mainmise, c'est leur palais, qui est un palais construit par l'architecte Michelozzo. D'extérieur, c'est un palais assez compact, assez massif. Par contre, à l'intérieur, on a une impression tout à fait différente, puisque les quatre ailes du bâtiment reposent sur des arcades. Donc on a un espace beaucoup plus aéré qui contrecarre cette première impression de pesanteur qu'on peut avoir de prime abord. Et ce qui est intéressant dans ce palais Médicis, outre le fait qu'il y avait tout un tas de collections d'œuvres peintes, d'œuvres sculptées, ce qui est intéressant, c'est que cette cour, à l'époque, était un véritable musée des antiques. Les Médicis collectionnaient les antiquités, les fragments d'architecture, les fragments de sculpture, et les donnaient à voir à leurs contemporains. La Renaissance, c'est aussi un autre rapport au temps. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un renouveau de l'érudition qui passait par une quête des récits de l'Antiquité. Et c'est vrai qu'à la Renaissance s'opère une nouvelle relation au temps. C'est-à-dire qu'on a la conscience qu'il y a eu un passé qui a été et qui n'est plus, un passé révolu. Et c'est pas un hasard si c'est à cette époque précisément qu'émerge un goût historique, archéologique pour les vestiges des temps anciens et notamment de l'Antiquité. Et c'est vraiment à partir du XVe siècle que les grands de ce monde, les princes, les prélats, se mettent à collectionner avidement tout ce qui se rapporte à l'Antiquité. Alors, je le disais, les Médicis vont collectionner les artistes les plus fameux, les plus connus de leur époque. Et la première œuvre que je voulais vous présenter est une œuvre de Fra Angelico qui peint pour l'église San Marco. L'église San Marco, c'est une église qui est reconstruite par l'un des ancêtres de cette dynastie des Médicis, Côme l'Ancien. Et Fra Angelico a un parcours un peu particulier parce que c'est à la fois un artiste, mais c'est aussi un religieux. Ses œuvres sont marquées par la pureté des lignes, par la pureté des couleurs. C'est un artiste qui est perméable aux innovations contemporaines, notamment à la perspective. Et là, on le voit, l'édifice dans lequel se trouvent la Vierge et l'Archange donne l'illusion d'une certaine spatialité. Donc on est totalement dans la Renaissance. Frangelico est néanmoins encore influencé par une esthétique médiévalisante. Oui, ça se dit. Et on voit notamment, alors malheureusement l'image n'est pas très bonne, mais si vous observez plus attentivement la végétation tout autour de cet édifice, on se rend compte qu'on a tout un semis de fleurs et une peinture très détaillée de motifs végétaux, de fleurs, d'herbes en tout genre. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très médiéval. En ce sens, Frangelico s'inscrit dans les derniers feux du Moyen-Âge, dans une mouvance qu'on appelle le gothique international. Le gothique international, ça désigne, voilà, ces derniers temps du Moyen-Âge, on est encore dans le gothique, il y a encore une attention très forte donnée à l'ornementation, au décoratif, et néanmoins, on voit qu'il est entre deux feux, qu'il est à la fois dans le Moyen-Âge et dans la Renaissance. Essayons. Si on allume ceux de là-bas et on éteint là. Bon, restons comme ça, ça va me perturber. Déjà que je suis toute déroutée. Bon, bref. Oui, alors, autre œuvre de Frangelico que je voulais vous montrer, Le Martyr de Saint-Côme et Saint-Damien. C'est une œuvre qui avait été commandée pour un retable. Les retables, ce sont des tableaux d'autel, parfois constitués de différents panneaux. Et dans la partie inférieure de ces tableaux d'autel, on a ce qu'on appelle la prédelle. Donc c'est l'élément inférieur au bas de ces retables, et là on a ici un élément de la prédelle. Donc c'est une œuvre de moyenne dimension. C'est un retable qui avait été commandé, toujours pour cette église San Marco, et qui raconte le martyr des saints Côme et saint Damien, qui étaient les saints patrons des Médicis. Et j'évoquais tout à l'heure le fait que Frangelico était perméable aux innovations de son époque, et notamment à la perspective. Bon, là encore, on a des éléments de cette perspective, puisque on voit au premier plan donc le bourreau qui procède à la décapitation des martyrs, et puis on a cette architecture au deuxième plan, puis le chemin qui se rétrécit petit à petit vers le paysage, qui donne l'illusion de cette perspective. Et toujours cette attention accordée à la végétation et notamment donc à ce tapis de fleurs et d'herbes qu'on voit au premier plan, qui est vraiment très influencé par ce gothique international. Alors, je parle de gothique international, je vais vous présenter à présent un artiste qui est en plein dans cette esthétique-là, c'est Benozzo Gozzoli. Benozzo Gozzoli, c'est un artiste florentin. Il naît en 1420, il meurt en 1497, donc il est plein pied dans le XVe siècle, et pourtant, il ne va pas être très perméable aux innovations de l'époque. Il est vraiment ancré dans une esthétique médiévale, alors que pourtant c'est un artiste qui côtoie les artistes les plus innovants de l'époque, comme Ghiberti, comme Frangelico. Cette œuvre-là est conservée au palais Médicis de Florence. Elle orne la chapelle de ce palais. Et en fait, Benozzo Gozzoli réalise le cortège des rois mages. Et chaque pan du mur de cette chapelle représente l'un des rois mages. Là, on a en l'occurrence... Gaspard, qui est représenté sous les traits de Laurent de Médicis sur son cheval blanc, coiffé d'un chapeau. Les Médicis, ils font partie intégrante de la politique de leur temps et ils estiment que l'art doit promouvoir leurs actions. Et surtout, ils estiment que l'art doit pérenniser leurs actions. En l'occurrence, en 1439, il y a un concile qui se déroule à Ferrare qui proclame l'union des églises d'Orient et d'Occident et donc qui met fin au schisme qui divisait la chrétienté depuis le milieu du XIe siècle. Le concile a lieu à Ferrare dans un premier temps, et puis il va être déplacé à Florence par l'entremise des Médicis. Et donc les Médicis veulent que ce souvenir soit remémoré, commémoré, et donc ils demandent à Benozzo Gozzoli de réaliser cette fresque, qui donc a un sujet religieux, hein, c'est le cortège des rois mages. Néanmoins, on retrouve tous les contemporains de l'époque. On retrouve les protagonistes comme l'empereur de Byzance, on retrouve, qui est figuré sous les traits du roi Melchior, on retrouve les traits du patriarche de Constantinople, qui endosse le costume de Balthazar, et on retrouve donc ici la famille des Médicis, donc avec Laurent de Médicis sur son cheval, je le disais tout à l'heure. On reconnaît également sur un cheval dans la partie gauche en noir Côme de Médicis et à ses côtés Pierre. Donc là, on est dans une esthétique médiévale avec cette préciosité des détails, cette vivacité des voilà. Cette vivacité des couleurs, l'omniprésence des ors également. Et ce qui est intéressant, c'est que... Bon, c'est un peu laborieux ce PowerPoint. Ce qui est intéressant, c'est que on voit que Benozzo Gozzoli est sensible aux recherches de l'époque. Néanmoins, c'est très empirique. Là, il y a une ébauche de perspective, puisqu'on voit bien que l'étagement des personnages est de plus en plus réduit à mesure qu'on s'enfonce dans le paysage, donc ça donne l'illusion d'une perspective. Néanmoins, on n'est pas dans une perspective construite, comme on avait pu le voir dans l'Annonciation de Fra Angelico, où la perspective est rendue possible par la représentation des architectures d'un point de vue mathématique et géométrique. Alors, autre œuvre que je voulais vous présenter, celle d'Antonio del Pollaiolo, qui est un artiste florentin, qui est à la fois peintre, mais également sculpteur et orfèvre. Et justement, cette formation d'orfèvre va avoir un impact sur son style. Les œuvres d'Antonio del Pollaiolo, elles se caractérisent par des figures graciles, contorsionnées, et des figures qui vont être jugées capricieuses par la suite. C'est un artiste, Antonio del Pollaiolo, qui sera assez dénigré, notamment par Vasari. Cette œuvre-là, elle est conservée au Musée des Offices, et en fait, elle appartient à un cycle qui représentait les travaux d'Hercule. Là, en l'occurrence, on a Hercule et Anté. Anté, c'était un géant fils du dieu de la mer, Poséidon, et de la déesse de la terre, Gaïa. Et donc, du fait de cette ascendance prestigieuse, il était invincible. Et en fait, pour le vaincre, Hercule est obligé de le soulever du sol. Du coup, il n'est plus en contact avec cette force tutélaire qu'était la terre, et il est vaincu. Donc on a ici ce goût pour la mythologie, ce goût pour l'antiquité, très prisé des Médicis. Et au-delà de ça, Hercule, c'est quand même une figure prestigieuse qui incarne la vertu, qui incarne le courage. Donc pour les Médicis, c'était aussi une façon de faire un effet miroir et de présenter de façon plus ou moins implicite leur propre courage et leur propre vertu. Autre artiste prisé des Médicis, c'est Paolo Uccello. Alors Paolo Uccello, c'est typiquement un artiste qui est à cheval entre cette esthétique médiévale du gothique international et cette esthétique renaissante. Uccello, c'est un artiste florentin. Il naît à la fin du XIVe siècle à Florence. Il meurt en 1475 à Florence également. Il travaille au contact des artistes les plus innovants de son époque, auprès de Ghiberti notamment. Et c'est un artiste qui va être très influencé donc, par le gothique international et par la Renaissance proprement dite. Et le problème, c'est qu'il ne va pas réussir à conjuguer les deux influences. Et c'est pourquoi c'est un artiste qui va être très déconsidéré, par Vasari notamment, qui va juger que ses recherches, à force de multiplier les fantaisies, sont trop compliquées et donc ne sont plus lisibles pour les spectateurs. Et en fait, c'est un artiste, Uccello, pour la petite histoire, qui va être totalement oublié et qui va être redécouvert au XXe siècle par les surréalistes notamment. Donc c'est une figure de transition, je le disais. Pour vous donner une idée, je voulais vous présenter ces deux œuvres-là, avant de revenir par la suite à la bataille de San Romano. Cette œuvre-là, Saint-Georges et le Dragon, est conservée à Londres, à la National Gallery. Donc là, on est en plein dans le gothique international, des figures qui évoquent les enluminures des manuscrits médiévaux. Tout est dans le détail, tout est dans la minutie. Et cette autre œuvre-là, qui par contre est pleinement ancrée dans les recherches contemporaines, c'est une fresque qui est conservée à Florence, une fresque qui représente donc le monument équestre d'un cavalier. Ce cavalier, on le voit, il est représenté de profil, mais par contre, le piédestal sur lequel il repose est représenté en contre-plongée. Donc on a deux points de vue différents, donc on a une ébauche de perspective, mais c'est une perspective assez empirique. Je reviens à la bataille de San Romano, donc ces trois œuvres, voilà, qui sont conservées à Paris, à Florence et à Londres, trois œuvres qui initialement devaient se lire comme une frise, et qui pourtant représentent des épisodes distincts, des épisodes guerriers, puisque les œuvres commémorent une bataille gagnée par Florence sur les Siennois. Donc on retrouve cette volonté de la part des Médicis de remémorer, de commémorer leur haut fait dans l'art. C'est une façon de pérenniser en quelque sorte leur mémoire. La perspective ici, elle est rendue par le paysage, les détails qui s'amenuisent au fur et à mesure que l'œil pénètre dans le tableau, et elle est également donnée par cette forêt de lances et de cavaliers. Et une œuvre comme celle-ci a été dénigrée par la suite par les historiens d'art, dans le sens où on avait une représentation qu'on jugeait très maladroite de la spatialité. Puis alors, l'autre artiste qui gravite autour des Médicis, c'est Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, c'est un artiste florentin, lui aussi. Il naît en 1444 ou 1445 à Florence. Il meurt en 1510. C'est un artiste qui étudie auprès de Filippo Lippi. Et je vous montre cette œuvre de Filippo Lippi à dessin, puisque l'art de Filippo Lippi se caractérise par une lumière omniprésente, par des traits très sinueux, tout en arabesque. Et c'est un style qui va profondément influencer Sandro Botticelli. Alors la première œuvre que je voulais vous présenter, c'est l'Adoration des Mages. C'est un tableau qui est conservé au musée des Offices. C'est un tableau qui n'a pas été peint pour les Médicis, même si par la suite il va leur appartenir, donc il y a quand même un lien. C'est un tableau qui a été peint pour Gaspard di Zanobi del Lama, qui est un homme d'affaires. C'est un tableau qui est destiné à sa chapelle familiale dans l'église Santa Maria Novella. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Gaspard di Zanobi del Lama demande à ce que les Médicis soient présents dans ce tableau. Donc on voit l'Adoration des Mages, la Vierge à l'enfant au centre, agenouillée près de l'enfant, il y a Côme de Médicis, qu'on voit à gauche. Devant l'enfant, en manteau rouge, il y a le fils de Côme, Pierre de Médicis, et à ses côtés, en blanc, son frère, Jean de Médicis. Donc les protagonistes des Médicis, c'est pas français cette phrase, bref, les Médicis sont présents dans ce tableau. C'est très déférent, c'est très révérencieux. Il y a une volonté d'inclure ces membres de la famille de Médicis comme si finalement ils étaient partie prenante de la scène sacrée. Voilà, un tableau une scène qui a lieu dans les ruines d'un bâtiment. Ce qui est intéressant aussi, et je voulais juste faire une petite parenthèse, c'est à l'arrière-plan, au fond à gauche, il y a les ruines d'un bâtiment antique. Je disais tout à l'heure que la Renaissance, c'était la conscience d'un nouveau rapport au temps, d'une nouvelle relation au temps, la conscience d'un passé qui a été et qui n'est plus. Et il n'est pas rare, dans les œuvres de la Renaissance, de voir justement des vestiges de l'Antiquité, soit sous la forme de ruines de bâtiments, soit sous la forme de motifs comme des colonnes, des chapiteaux disposés ça et là. Au-delà de ça, c'est une petite astuce iconographique. Le fait de représenter l'Antiquité et une Antiquité en ruine, c'est une façon de montrer que cette Antiquité et au-delà le paganisme n'ont pas résisté au temps. C'est une façon de montrer leur caractère périssable et inversement de montrer le côté pérenne et éternel de la religion chrétienne. Donc ça, c'est vraiment une astuce iconographique qu'on retrouve dans les œuvres de cette époque. Autre œuvre très célèbre de Botticelli, l'Allégorie du printemps. Donc toujours une influence de l'Antiquité et de la mythologie, puisque là on retrouve la figure de Vénus au centre, et puis de part et d'autre des figures mythologiques. Donc dans la partie gauche, on voit Mercure, on voit les trois grâces, Et dans la partie droite, on a Zéphyr qui incarne le vent d'ouest, épris d'une nymphe, Chloris, et de cet amour naît Flore, la déesse du printemps, qui donne donc le titre à ce tableau. J'évoquais tout à l'heure l'attention de Fra Angelico pour la végétation, pour une représentation très, très précieuse et très, comment dire, très minutieuse de la végétation. On la retrouve là aussi. Alors la qualité n'est pas forcément très bonne, néanmoins le sol sur lequel sont disposés les personnages fourmille de détails, et ça c'est encore vraiment une, comment dire, une influence moyenâgeuse, enfin médiévale. Moyenâgeuse, c'est un peu désagréable comme terme. Autre œuvre, alors là encore, cette volonté de s'ancrer dans la mythologie, Pallas et le Centaure. C'est une œuvre qui appartenait aux Médicis, et on voit donc la figure de Pallas. Pallas, c'est Athéna, c'est Minerve, qui saisit par les cheveux le Centaure, qui est à la fois colérique et mélancolique. Et la morale de l'histoire, c'est que ben voilà, la sagesse triomphe de la bestialité. Il y a toujours un message sous-jacent dans les œuvres de Botticelli et dans ses œuvres qui s'ancrent dans la mythologie. Et ce message sous-jacent n'est pas forcément perceptible pour tous. Hein. Il fallait une certaine éducation, il fallait décrypter toutes ces iconographies. Et c'est le fait du prince de pouvoir avoir ce luxe de décrypter ces scènes. Je disais tout à l'heure que les Médicis étaient des personnages incontournables pour la Florence du XVe siècle. J'évoquais tout à l'heure le retable peint pour Gaspard di Zanobi del Lama, l'adoration des mages, où donc il y avait les membres de la famille Médicis qui étaient présents. Dans cette œuvre-là, peinte par Domenico Ghirlandaio pour les Sassetti, qui était une grande famille de Florence, qui gravitait également autour des Médicis, eh bien, on retrouve cette citation. En fait, Francesco Sassetti, donc le commanditaire de cette œuvre, demande à Ghirlandaio de peindre des scènes dans la chapelle familiale des Sassetti, dans l'église Santa Trinita, de peindre des scènes sur la vie de Saint François, le saint protecteur de Francesco Sassetti. Et ici, on a l'approbation de la règle franciscaine par le pape, et normalement, c'est une scène qui devait avoir lieu à Rome. Premier signe de déférence, Francesco Sassetti demande à ce que cette scène ait lieu à Florence. Et autre signe de déférence, auprès du pape, il y a au centre, avec ce nez un peu imposant, Laurent de Médicis. Donc toujours ce clin d'œil à cette famille Médicis, et c'est pas anodin. C'est vraiment une volonté de rendre un hommage explicite aux Médicis. Voilà, je quitte Florence pour Mantoue, en Lombardie, dans le nord de l'Italie. Mantoue, qui est sous la coupe des Gonzagues, qui se sont imposés à Mantoue au XIVe siècle. Ils sont d'abord seigneurs de Mantoue, et puis ils sont marquis ensuite, et ce titre honorifique leur est donné par le Saint-Empereur romain germanique, Sigismond. L'un des grands personnages de cette famille pour le XVe siècle, c'est Ludovic Gonzague, qui est un homme de guerre, un mercenaire qui a bâti sa fortune sur ses exploits militaires, mais c'est également un homme de lettres qui a une éducation humaniste et qui veut faire de Mantoue la vitrine de son pouvoir, de son autorité, et qui va donc pour cela solliciter les artistes de son époque pour faire de cette ville un miroir de sa puissance. Il sollicite donc les artistes les plus innovants, et il sollicite notamment l'architecte Léon Battista Alberti. Donc je l'évoquais tout à l'heure, hein, c'est un grand théoricien, c'est lui qui conceptualise la perspective dans ses traités théoriques. Et Léon Battista Alberti réalise à Mantoue l'église Saint-André et s'inspire de l'Antiquité. Cette façade d'église, elle évoque les temples antiques avec cette arcade au centre, ce fronton qui couronne cette façade. Il y a un tribut à l'Antiquité qui saute aux yeux. Ludovic Gonzague, il était très, très attentif aux innovations de l'époque. On a la chance d'avoir conservé un écrit d'un architecte et d'un théoricien de l'époque qui s'appelle Antonio Filaret. Et Antonio Filaret imagine un dialogue dans lequel il fait dire à Ludovic Gonzague, je cite, « Moi aussi j'aimais les bâtiments modernes, donc les bâtiments médiévaux, mais dès que j'ai commencé à apprécier les constructions antiques, je me suis mise à détester les bâtiments modernes. Lorsque j'ai appris qu'à Florence, on construisait dans le style antique, j'ai décidé de faire venir l'un des hommes dont j'avais entendu le nom. Et lorsque j'ai discuté avec lui, j'ai été saisie d'un tel enthousiasme que je déterminais de ne rien construire si ce n'était pas fait selon le mode antique. » Donc, on retrouve ce goût pour l'antiquité qui devient une véritable mode, une véritable vogue. Et au-delà, on voit bien qu'il y a une certaine émulation, sinon une certaine rivalité entre les cités. Ah bah tiens, à Florence, il se passe telle ou telle innovation, ça serait pas mal qu'à Mantoue, on fasse de même. Donc, influence de l'antiquité dans l'architecture, à l'extérieur et dans le décor peint à l'intérieur avec ce décor de grotesque. Les grotesques, le mot vient de grotte. Les grotesques, c'était ces motifs ornementaux tout en arabesque dans lesquels parfois il y a des figures humaines, des figures animales, et c'était des motifs qu'on trouvait dans les grottes de Rome, c'est-à-dire les monuments en ruines de l'Antiquité. Et ça va être redécouvert à la Renaissance, il va y avoir une véritable vogue pour ce type de motif, et là on en voit un bon exemple ici. Bon, le grand chantier de Mantoue à cette époque, c'est le château Saint-Georges, qui va être abondamment décoré, notamment par le grand artiste de Mantoue du XVe siècle, Andrea Mantegna. Andrea Mantegna, c'est un artiste qui naît en 1431, il meurt en 1506. Il travaille d'abord dans le nord de l'Italie, à Padoue, dans une ville universitaire, dans une ville qui est très, très dynamique. L'avenue de Donatello, qui est un des grands sculpteurs de l'époque, a profondément dynamisé la ville et a amené de nombreux artistes à travailler à Padoue. Et Mantegna va travailler auprès d'un artiste qui s'appelle Francesco Squarcione, qui est un grand collectionneur d'antiquités. Et Mantegna va être très influencé par cette antiquité, et ça va avoir un rôle déterminant dans l'élaboration de son style, qui est un style très, très graphique, très, très minéral. Et on va le voir, ça va être une influence très, très importante. Autre influence, celle des Bellini. Les Bellini, c'est toute une dynastie d'artistes qui travaillent à Venise. Mantegna a l'occasion de percer le cercle en épousant la fille du patriarche, Jacopo Bellini. Les Bellini sont des artistes qui insufflent à leurs œuvres une grande clarté. Il y a une luminosité dans les œuvres des Bellini qui fait de leurs œuvres des œuvres très reconnaissables. Pour vous montrer le lien entre les deux artistes, les images parleront mieux. Je voulais vous présenter cette œuvre-là, bonsoir, d'Andrea Mantegna, La Vierge à l'Enfant avec Saint Jérôme et Saint Ludovic, et une œuvre des Bellini, La Vierge à l'Enfant. Donc on voit que dans les formes, dans la lumière, il y a des liens très forts. Et au-delà, il y a aussi des liens stylistiques, puisqu'ils optent pour les mêmes solutions, à savoir la Vierge à l'Enfant posée sur une balustrade et derrière un paysage qu'on devine plus ou moins. En 1460, Mantegna entre au service de Ludovic Gonzague et il va devenir l'artiste officiel de la cour de Mantoue pendant plus de 40 ans. Donc c'est un honneur, c'est aussi un vrai gain, puisque ses tâches sont grassement rémunérées. Ça ne fait pas de Mantegna un artiste fixé à Mantoue. Il va pouvoir ponctuellement travailler dans d'autres villes si le prince l'autorise. Finalement, un artiste est aussi un peu la possession du prince et il y a un lien certain entre les deux. Alors, dans ce palais Saint-Georges, Mantegna va décorer la chapelle qui est aujourd'hui détruite et va réaliser deux œuvres, la circoncision et la mort de la Vierge, qu'on va voir par la suite. J'évoquais tout à l'heure l'influence de l'Antiquité sur les œuvres de Mantegna, au contact des collections de Francesco Squarcione. Bon, là, on a une scène, la circoncision, qui a lieu dans un édifice où tout est antique. Les plaquages de marbre, les décors ornementaux, et puis l'architecture elle-même avec les colonnes, les chapiteaux, les arcades. Donc il y a vraiment une influence de l'Antiquité. Autre œuvre réalisée pour cette même chapelle, La mort de la Vierge. Et là, c'est une œuvre un peu clin d'œil, puisqu'en fait, il y a le paysage qui est peint à l'arrière-plan est un paysage qui ressemble très fortement à Mantoue. Donc c'est une façon de faire un clin d'œil aux commanditaires et aux origines de ce commanditaire. L'œuvre qui va fonder la célébrité de Mantegna et qui est de fait la plus fameuse, c'est la Chambre des Époux, qui réalise entre 1465 et 1474. C'est une œuvre très fameuse parce qu'on est dans l'illusion la plus totale. C'est un vrai chef-d'œuvre du trompe-l'œil. Il peint sur l'un des murs donc cette scène qui est découverte au public par cette étoffe tirée à gauche. Et on a ici donc la représentation de la cour de Mantoue. On voit Ludovic Gonzague assis qui se tourne vers un messager. On voit l'attitude très déférente de ce messager qui montre la puissance, le prestige de Ludovic Gonzague. Et tout autour de lui, eh bien, il y a sa famille. Il y a son épouse d'origine germanique, Barbara, et les enfants, et au-delà, les courtisans. L'illusion de la réalité, elle est totale. Si vous observez bien les personnages, en fait, ils sont disposés sur une sorte de balustrade. Donc, on a vraiment l'impression qu'ils surplombent l'espace du spectateur. Autre pan de mur, autre scène, on retrouve Ludovic Gonzague à gauche qui rencontre ses fils. En fait, il avait deux fils, notamment celui qu'on voit au centre en robe de cardinal et celui qui est adossé dans la partie droite. Et au-delà, tout autour, dans l'arrière-plan, il y a des ruines de vestiges antiques. Alors malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver des gros plans de ces scènes-là, mais en fait, le paysage est parsemé de constructions antiques plus ou moins réinventées, mais qui montrent bien ce goût pour le passé qui caractérise les œuvres de Mantegna. Et puis alors, le morceau le plus fameux de cette chambre des époux, c'est le plafond avec cet oculus. Un oculus, c'est une petite ouverture ronde. C'est un chef-d'œuvre de l'illusion puisque les personnages sont vus en contre-plongée, se présentent au-dessus d'une balustrade et contemplent le spectateur. Et tout autour de ces personnages, il y a la représentation de bas-reliefs sur lesquels on voit des bustes d'empereurs romains, donc toujours ce goût pour l'Antiquité. Et au-delà de ça, c'est jamais anodin. La présence de l'Antiquité, elle n'est jamais anodine. C'est-à-dire que pour ces commanditaires, c'est toujours intéressant de se rattacher à des temps anciens, des temps mythifiés. Le message serait un peu suivant. Finalement, le règne des Gonzagues à Mantoue, c'est l'une des suites logiques du règne des empereurs romains de l'Antiquité sur l'ensemble de l'Italie. Il y a toujours une volonté de manifester une ascendance prestigieuse. Alors, autre œuvre de Mantegna, la Madone de la Victoire. À la fin du XVe siècle, entre 1494 et 1497, c'est la première guerre d'Italie. Il y aura plusieurs guerres. Première guerre d'Italie menée par le roi de France, Charles VIII, qui décide de conquérir le royaume de Naples et qui se dit que bon, c'est du tout cuit dans le sens où l'Italie est une mosaïque de territoire. Donc pour Charles VIII, ça va être synonyme de fragilité. Bon, c'était une erreur tactique puisque les cités italiennes vont résister, notamment grâce aux actions de François II de Gonzague, qui est l'un des descendants de Ludovic Gonzague. Et François II de Gonzague, c'est un mercenaire qui a mis ses talents au service de la République de Venise et qui va vaincre les Français à Fornoux. Et pour remercier la Vierge de cette victoire, il commande à Mantegna ce tableau. Donc on est dans une iconographie très, très joyeuse, puisque c'est la commémoration de cette victoire-là. Donc ça explique le fait qu'on ait un décor opulent, un décor de fruits, de fleurs, synonyme d'allégresse. Et cette commémoration de victoire explique aussi l'iconographie choisie, puisque de part et d'autre, on a à gauche Saint-Michel et à droite Saint-Georges. Et Saint-Michel et Saint-Georges sont deux saints guerriers. Saint-Michel, dans l'Apocalypse, c'est lui qui combat le dragon, qui est la figure allégorique du mal. Et Saint-Georges, c'est cet officier romain qui combat le dragon pour délivrer la princesse et qui devient le saint patron des chevaliers. Donc la présence de ces deux saints, elle n'est pas anodine. À l'arrière-plan, on a deux autres saints, Saint-André, qu'on reconnaît avec sa croix, c'est son attribut, et Saint-Longin, qu'on reconnaît avec sa lance. Saint-Longin, c'est celui qui perce le flanc du Christ et qui, de fait, se convertit au christianisme et mourra en martyr. Et en fait, Saint-André et Saint-Longin sont les deux saints patrons de Mantoue. Et puis, on voit au premier plan, donc auprès de la Vierge à l'enfant, auprès de Sainte-Élisabeth et de Saint-Jean-Baptiste, eh bien, on voit François II de Gonzague en armure, agenouillé. Donc, c'est vraiment un tableau commandé en action de grâce pour cette victoire de Fornoux. Autre œuvre de Mantegna, les triomphes de César. En fait, je vous présente juste un panneau. En fait, c'est une succession de 9 toiles qui visiblement ont été peintes, pour les Gonzagues, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Ce qu'on sait, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est que ces œuvres ont été acquises par Charles Ier d'Angleterre. Et donc voilà, on voit que la renommée de l'artiste, eh bien, traverse les frontières et que les collections de l'époque. Non, ce n'est pas la bonne phrase que je voulais faire. Excusez-moi, je suis troublée. Oui, on voit la renommée de l'artiste. C'est-à-dire que c'est digne d'être collectionné. Et ces artistes-là, ils ont une renommée grâce à leurs œuvres, grâce à leurs talents, mais ils ont également une renommée importante grâce à la dignité, au prestige de leurs commanditaires. C'est pas sûr qu'elles auraient été acquises par le roi d'Angleterre si elles avaient été commandées par un obscur personnage de l'Italie. Voilà, il y a cette dimension-là, médiatique, entre guillemets, qui est très importante. Au-delà, petite parenthèse, toujours ce goût pour l'Antiquité avec ces bâtiments romains qui parsèment le paysage. Et enfin, dernière œuvre de Mantegna à Mantoue, ce sont deux tableaux, Minerve chassant l'ibis du Jardin de la Vertu et le Parnasse, deux œuvres conservées au musée du Louvre, qui ont été peintes pour l'épouse de François II de Gonzague, Isabelle d'Este. Isabelle d'Este, elle avait ménagé dans ce château Saint-Georges un studiolo, c'est-à-dire une sorte de bureau, un lieu de retraite pour le prince qui va pouvoir s'adonner à la lecture, à la méditation. Et Isabelle d'Este avait sollicité plusieurs artistes pour décorer cette pièce, et notamment Mantegna. Seulement, Isabelle d'Este commande juste deux œuvres à Mantegna, puisqu'elle juge que son travail est un peu obsolète. Donc ça montre bien le côté un peu aléatoire et un peu, fragile de l'artiste. Finalement, sa renommée, elle est suspendue au bon vouloir du prince. Mantegna a été adulé par Ludovic Gonzague. Il est prisé par François II de Gonzague, qui lui a commandé la Madone de la Victoire. Mais bon, on voit qu'Isabelle d'Este est plus mitigée. Et le fait est qu'il n'y aura que deux œuvres de lui dans son studiolo. Toujours ce goût pour l'Antiquité, ce goût pour la mythologie. Donc tout à l'heure, on avait Minerve chassant les vices du Jardin de la Vertu dans un décor floral. Et dans ce tableau-là, le Parnasse, on voit Vénus et Mars qui contemplent donc les muses dansant au son de la lyre d'Apollon qui est présentée dans la partie gauche. Voilà, on reconnaît également Mercure à droite. Et puis, tout au fond à gauche, dans sa grotte qui est en train de piquer une colère, on a Vulcain, l'époux trompé de Vénus qui lui préfère les charmes de Mars. Autre cité, Urbino, dans les Marches, qui est sous la coupe d'une famille qui s'est implantée là depuis le XIIIe siècle, les Montefeltre. Urbino, c'est un grand centre intellectuel et artistique de la Renaissance. La volonté des Montefeltre est de faire de cette cité un, un miroir de leur pouvoir, de leur prestige, et donc là aussi, ils vont solliciter les artistes les plus innovants, les plus importants de leur époque. Frédéric de Montefeltre, on le voit ici sur ce tableau peint par Piero della Francesca, c'est un comte. Ensuite, il est fait duc par le pape lui-même, le pape Sixte IV. Il reçoit une éducation humaniste et il est très attentif donc aux recherches picturales, aux recherches intellectuelles de son époque. Et il va faire d'Urbino donc la vitrine de son pouvoir. On a la chance d'avoir un témoignage de ses commandes dans le livre de Baltasar Castiglione, le livre du courtisan. Baltasar Castiglione, c'est le courtisan par excellence. Il a été au service de François II de Gonzague à Mantoue. Il a été ensuite au service de Guido Baldo de Montefeltre, le fils de Frédéric de Montefeltre, à Urbino. Et dans ce livre du courtisan, Castiglione décrit les actions de ce prince. Et il explique, je le cite, « Il fut en son temps la lumière de l'Italie. Et il ne manque pas de véridiques et amples témoignages, toujours vivants, de sa prudence, de son humanité, de sa justice, de sa libéralité, de son courage invincible et de sa science militaire, dont font principalement foi tant de victoires obtenues par lui. Ce duc, entre autres actions dignes de louange, édifia sur l'âpre et difficile site d'Urbino un palais, selon l'opinion de beaucoup le plus beau que l'on trouve dans toute l'Italie. Et il le fournit si bien de toutes choses utiles que ce ne semblait pas être un palais, mais une ville en forme de palais. Il l'emplit non seulement de ce dont on se sert ordinairement pour décorer les pièces, vases d'argent, riches draps d'or, de soie et d'autres choses semblables, mais à titre d'ornement, il y ajouta une infinité de statues anciennes, de marbre, de bronze, de peinture, d'instruments de musique de toutes sortes. Et il n'y voulut aucune chose qui ne fût rare et excellente. » Donc c'est un bon témoignage de l'appétit des princes pour l'art et pour le beau. La magnificence, littéralement, est synonyme de pouvoir et elle est donc recherchée, elle est prisée par ces princes. Donc ce palais, le voici, voici la cour plus exactement, qui a été édifiée par un architecte qui s'appelle Luciano Lorana. Et dans cette cour, il y a une frise qui est présente sur les quatre côtés et qui est un hymne au pouvoir de Frédéric de Montefeltre. On lit cette inscription, je le cite, « Frédéric, duc d'Urbino, comte de Montefeltre et de Castel-Durante, gonfalonier de la Sainte Église romaine, généralissime de la Confédération italienne, a bâti cette maison depuis les fondations pour sa gloire et pour sa postérité. Dans la paix, sa justice, sa clémence, sa libéralité et sa religion égalèrent et embellirent ses victoires. » Voilà, un hommage très déférent donc aux actions du prince. Ce n'est pas un hommage anodin, évidemment. Les artistes sont des courtisans, donc ils ont tout intérêt à vanter les mérites du prince, puisque le prince est le commanditaire par excellence. Dans ce palais d'Urbino, la pièce la plus fameuse, c'est le Studiolo. C'est un Studiolo qui multiplie les trucs et astuces pour donner l'illusion de la réalité. Donc on est vraiment dans le royaume du trompe-l'œil. Et on est là dans un art particulier, l'art de la marqueterie, c'est-à-dire différents plaquages de bois. On cherche à rendre l'illusion de la réalité, avec la porte entrouverte, avec ce luth qui est présenté dans l'espace du spectateur. On a vraiment l'impression d'être immergé dans un espace en trois dimensions, alors qu'en fait, on est en deux dimensions. Dans la partie supérieure de ce studiolo, il y a des œuvres peintes qui représentaient toutes les grandes figures du savoir, et notamment les grandes figures du savoir de l'Antiquité, avec ici Aristote, donc toujours cette volonté du retour aux sources, du retour à l'Antiquité. Il sollicite Paolo Uccello, Frédéric de Montefeltre, pour réaliser un retable, et plus précisément la prédelle d'un retable. Donc la prédelle, je le rappelle, c'est la partie inférieure des retables. Et Paolo Uccello donc réalise plusieurs panneaux sur un sujet qui est à l'époque très, très courant, le miracle de l'hostie profanée. Bon, c'est une histoire triste, c'est une chrétienne qui est totalement endettée, qui vole une hostie pour la remettre à un usurier. de façon à payer ses dettes, et dans les mains de l'usurier, l'hostie se met à saigner. Donc il y a cette métaphore du saignement de l'hostie et donc parallèlement du saignement du Christ. Donc c'est vraiment le sacrilège ultime, ce vol de l'hostie. Je disais tout à l'heure que Uccello était encore très en prise avec une esthétique médiévale. On le voit, là on est dans une œuvre qui rappelle beaucoup les enluminures des manuscrits médiévaux. Alors ça, c'était donc la prédelle du retable, et le panneau est peint dans un tout autre style par un artiste flamand, Juste de Gand, donc c'est la communion des apôtres, et on voit dans la partie droite un personnage avec cette écharpe rouge sur son épaule, avec ce nez crochu, et en fait on reconnaît donc le profil de Frédéric de Montefeltre. Petite parenthèse, les princes italiens de cette époque vont être très attentifs aux innovations de l'époque, je l'ai dit, mais pas seulement aux innovations italiennes. Et la présence, par exemple, de Juste de Gand, qui est flamand, ne doit pas étonner. C'est des cours qui se veulent cosmopolites et qui se veulent le reflet des créations contemporaines. Ce qui est intéressant, c'est que flamands et italiens ont des façons très différentes de peindre. Je l'ai dit tout à l'heure, en Italie, on cherche à représenter la réalité à travers une étude géométrique, mathématique. On cherche à rendre l'illusion de l'espace par la perspective. En Flandre, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que l'illusion de la réalité, elle ne repose pas sur la perspective, elle repose sur le rendu mimétique des matières. On va avoir des peintures très très minutieuses. Donc malheureusement, là on ne voit pas forcément, mais quand on observe de près ces œuvres-là, c'est assez flagrant. Les flamands vont être très attentifs à tous les petits détails, et du coup c'est des peintures qui peuvent sembler plus statiques et plus ancrées dans le Moyen-Âge. Autre exemple du cosmopolitisme qui règne à Urbino, ce portrait peint par Pedro Berruguete, qui est un artiste espagnol dont on sait peu de choses. Mais c'est un tableau que je vous présente parce qu'on a la figure du prince idéal. On a Frédéric de Montefeltre en armure, donc hommage à l'homme de guerre qu'il était, et en même temps, homme de lettres, puisqu'il est en train de lire, et il est dans un espace clos, intimiste, propice à la réflexion et à la méditation. Donc voilà, cette volonté toujours de l'artiste de représenter le commanditaire sous un bon jour, à la fois homme de lettres et homme de guerre. Alors, à Urbino, Mantoue avait Mantegna, Urbino va avoir Piero della Francesca, qui est un des grands artistes du XVe siècle. Piero della Francesca, c'est un artiste toscan, il va travailler à Florence, il va s'y former, et il réalise un art qui peut sembler a priori un peu abrupt. Il peint des personnages très, très hiératiques, très sculpturaux. Il y a une certaine sévérité qui émane de ses œuvres, un côté très, très sec, très minéral. Mantegna, c'est aussi un théoricien. Il va notamment réaliser un traité sur la perspective. Et c'est un artiste de cour. Il va séjourner à Urbino, il va séjourner à Ferrare, à Mantoue. Et à Urbino, donc, il va réaliser plusieurs œuvres, notamment « La flagellation du Christ ». Qui est une œuvre assez énigmatique. En fait, on a deux scènes dans cette œuvre-là. On a à gauche la flagellation du Christ, dans le prétoire, lieu où Ponce Pilate, le procurateur de Judée, rendait donc la justice. Et puis, à droite, on a trois personnages dont la présence étonne, parce que cette scène se distingue de l'autre. Elle se distingue d'un point de vue chronologique. Ce sont des personnages contemporains, donc ça tranche avec la scène religieuse. Et puis, d'un point de vue thématique, finalement, ce sont ces personnages qui sont au premier plan et qui relèguent au second plan la scène religieuse. C'est une œuvre qui est très énigmatique, qui a beaucoup posé problème aux historiens et aux historiens d'art qui parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur l'identité de ces personnages. Très vraisemblablement, il y a un ou plusieurs membres de la famille des Montefeltre qui est représenté ici, mais on n'en sait guère plus. Alors, je vous présentais tout à l'heure cette œuvre-là. En fait, c'est un diptyque. Un diptyque, c'est une œuvre composée de deux panneaux. Donc, on a la représentation de Frédéric de Montefeltre et de son épouse Battista Sforza. Représentation de profil, c'est la norme à l'époque. Il y a aussi un côté esthétique, dans le sens où Frédéric de Montefeltre était tout défiguré sur une partie de son visage. Donc c'est une façon de le présenter sous un meilleur jour. Et ce qui est intéressant, c'est l'arrière-plan. L'arrière-plan, en fait, foisonne de détails. Alors là encore, je n'ai pas réussi à trouver une représentation plus précise. Faites-moi confiance. Donc cet arrière-plan foisonne de détails. Et ici, Piero della Francesca a été très influencé par les artistes flamands de l'époque qui s'amusaient justement à multiplier les arrière-plans et à multiplier des arrière-plans qui fourmillaient de détails. Ça c'est le revers de l'œuvre, donc toujours hein, cet arrière-plan foisonnant de détails. Voilà, et à titre d'exemple, pour vous montrer le lien entre peinture flamande et peinture italienne, je voulais vous présenter cette œuvre de Roger van der Weyden, qui a travaillé en Italie, qui a côtoyé Piero della Francesca, donc l'influence, elle est avérée. Là, on a une œuvre religieuse, hein, Saint-Luc dessinant le portrait de la Vierge, dans un intérieur, et en fait, à l'arrière, on a une succession de plans, et on a une peinture qui donc multiplie les détails de personnages, de constructions, de paysages. Autre œuvre un peu similaire, La Vierge au Chancelier Rollin, de Jan van Eyck. C'est un peu le même procédé, hein, un intérieur, des personnages, et à l'arrière-plan, des paysages qui s'effilochent au fur et à mesure. Donc voilà. Bien frapper cette influence, ces liens forts entre peinture flamande et peinture italienne de l'époque. Alors, on retrouve la figure de Frédéric de Montefeltre dans ce tableau. C'est une pala. Une pala, c'est un tableau d'autel d'un seul tenant. C'est une forme qui est très fréquente en Italie au XVe siècle. On a ici une sainte conversation. La sainte conversation, c'est un thème qui se développe en Italie au XVe et au XVIe siècle. En fait, c'est un dialogue muet entre la Vierge et l'enfant et les saints autour d'elle. Et c'est vraiment une iconographie omniprésente à cette époque. Donc là, effectivement, on est à l'intérieur d'un édifice religieux, une église, une chapelle, et on a donc la Vierge et l'enfant, et l'enfant est endormi. Et en fait, le tableau a été réalisé à l'époque où l'héritier des Montefeltre naissait. Et donc, cet enfant endormi est une allusion à cette naissance récente. Et donc, on voit Frédéric de Montefeltre agenouillé, l'air pieux, auprès de la Vierge. Autre cité, Rimini. Rimini, c'est une ville qui est en Émilie-Romagne, au bord de la mer Adriatique, donc à l'est de l'Italie. Et Rimini est sous la coupe des Malatesta. On voit là le portrait de Sigismond Malatesta, peint par Piero della Francesca, là encore. Toujours cette représentation emblématique des portraits de cour, de profil. Sigismond Malatesta est un personnage assez décrié à l'époque. Hein. Notamment, il va avoir des relations houleuses avec le pape de l'époque, Pie II, qui va même l'excommunier et qui va laisser une trace indélébile. Hein. Sigismond Malatesta, il va souffrir de cette image de personnage haïssable, détestable. C'est une image qui lui colle à la peau. Sigismond Malatesta, il est très, très perméable donc, aux innovations de l'époque. On avait vu qu'à Mantoue, Alberti avait été sollicité pour la construction de l'église Saint-André. Eh bien, à Rimini, Alberti va être sollicité pour la construction de l'église Saint-François, San Francesco, dite aussi Tempio Malatestiano. En fait, c'est une église qui est un véritable panthéon pour la famille des Malatesta. Alberti, en fait, ne la construit pas de A à Z, cette église. Il sauvegarde la structure initiale et, en fait, il l'enveloppe d'une façade de marbre. Et, en fait, il s'inspire de l'Antiquité et cette façade, qui est malheureusement inachevée, est l'exacte copie, presque, d'un arc antique dans la ville de Rimini qui s'appelle l'Arc d'Auguste. que je n'ai pas trouvé en photo, enfin que je n'ai pas trouvé sur le net, mais que j'ai vu, et qui effectivement est une citation. Et autre forme de citation ici, Alberti va multiplier les remplois, c'est-à-dire qu'il va récupérer des œuvres antiques qu'il va insérer à la construction. C'est une forme de citation, là encore, une sorte de clin d'œil à ces temps anciens. C'est une forme de récupération qui est très, comment dire, très fréquente durant la Renaissance, qui est à la fois pragmatique, puisque bon, on prend parti des édifices qui sont existants, mais c'est aussi idéologique, puisqu'il y a une volonté donc de s'inscrire dans l'Antiquité. Les œuvres d'Alberti, elles sont révélatrices de ce goût nouveau pour l'Antiquité. On abandonne totalement l'esthétique gothique, qui était une architecture sophistiquée, permise par les innovations techniques, tout en verticalité, tout en artifices spatiaux. Et finalement, la Renaissance, on cherche quelque chose de plus régulier, de plus symétrique. Et pour illustrer mon propos, je voulais juste vous montrer cette œuvre-là, la construction d'un palais de Piero di Cosimo. C'est une œuvre de la Renaissance italienne, hein, c'est une œuvre du XVIe siècle, et c'est une œuvre emblématique de ce goût nouveau pour l'Antiquité, puisqu'on a un édifice qui est une exacte copie des monuments antiques, mais surtout on voit tous les ouvriers au travail, et on voit que ces ouvriers travaillent à l'antique. On a des chapiteaux, on a des colonnes, on a un buste au premier plan, bref, on a tout un tas de références à cet art de bâtir antique. À l'intérieur, on a une fresque de Piero della Francesca, où on retrouve cette figure de Sigismond Malatesta, qui est ici agenouillé auprès de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Sigismond. Autre cité, Ferrare, en Émilie-Romagne, Ferrare sur laquelle règnent les Estes, qui sont également des grands mécènes de l'époque. Et un des grands personnages de cette famille, c'est Leonello d'Este. Leonello d'Este, il est lui aussi très, très friand de nouveautés. Il va solliciter des tas d'artistes différents, artistes italiens, artistes flamands. C'est lui qui va charger Alberti de réaliser son traité d'architecture. Donc on a un homme très au fait des recherches de son époque. Et Leonello d'Este, on le voit ici, dans un portrait peint par Pisanello. Et ce qui est intéressant, c'est que le portrait de Leonello d'Este avait fait l'objet d'une joute artistique entre deux artistes, Jacopo Bellini, ce peintre vénitien qui avait influencé Mantegna, et Pisanello, qui est un peintre italien encore très ancré dans le gothique international. Hein. On voit ce goût pour l'ornementation. Et le fait est que l'histoire a retenu cet épisode, a retenu cette joute artistique. Donc ça montre bien l'effervescence qui règne dans les cours de cette époque. Leonello d'Este est donc un mécène qui va solliciter plusieurs artistes pour la décoration de son palais. Leonello d'Este avait lui aussi son studio Lo, son lieu de retraite intellectuel. C'est un édifice qui a aujourd'hui disparu. Néanmoins, on a gardé certaines œuvres qui ornaient le monument. Et notamment, on a gardé des œuvres qui révèlent l'inspiration des commanditaires. Le studio Lo, c'est un lieu de retraite intellectuelle, un lieu de retour aux sources. Et en fait, la décoration avait été choisie à dessein, puisque c'est une décoration qui évoque l'inspiration des muses. Et on voit là, justement, l'une des muses, représentée ici par Comtura, qui était un peintre ferrare, très influencé par Mantegna, très influencé par Squarcione, et qui va faire de Ferrare une des cités les plus importantes de l'Italie du XVe siècle. Il va renouveler l'art de peindre à Ferrare. Il y a un autre édifice très important à Ferrare, c'est le palais Schifanoia. C'est un palais qui est un peu à l'écart de la ville. Et les fresques du palais Schifanoia sont emblématiques de la volonté du prince de montrer à tous son bon gouvernement. On a des fresques qui célèbrent la paix et la prospérité à la cour de Ferrare, des fresques qui sont très influencées par l'Antiquité, Là, par exemple, on a une représentation de Minerve, qui était la patronne de l'artisanat féminin, la patronne du filage, du tissage. Et ce sont des fresques qui sont peintes par un artiste qui s'appelle Francesco del Cossa, un artiste d'origine ferrarese qui va être très influencé justement par Comtura et par Andrea Mantegna et par Francesco Squarcione. Et puis je voulais terminer ce panorama des cours italiennes par Milan, en Lombardie, et par un artiste en particulier, alors là c'est totalement arbitraire de ma part, Léonard de Vinci. Milan, au XVe siècle, elle est sous la coupe de deux familles, les Visconti, puis les Sforza. Et donc, Léonard de Vinci va travailler pour les Sforza. Et en fait, c'est Léonard de Vinci qui va à la rencontre de cette famille en vantant ses mérites et en appâtant ses princes. Et de fait, il va rester à Milan pendant plusieurs années, pendant près de 18 ans. Bon, Léonard de Vinci ne se présente plus, c'est un architecte, un inventeur, un théoricien, un peintre. C'est l'une des figures emblématiques de la Renaissance italienne, hein. C'est l'archétype de l'artiste complet. Il fait son apprentissage auprès d'un artiste florentin qui s'appelle Andrea del Verrocchio, qui est à la fois peintre, sculpteur, orfèvre, donc qui lui aussi est multitâche. Et Léonard de Vinci va réaliser un certain nombre d'œuvres pour les Sforza, et notamment cette œuvre-là, la Vierge au Rocher, qui est conservée au musée du Louvre. C'est un tableau très énigmatique, dans le sens où Léonard de Vinci tranche avec les créations contemporaines. Il ne représente pas la scène religieuse dans un décor architectural, mais dans un décor naturel, dans un décor minéral presque lunaire, très sombre. Et c'est un décor qui, à l'époque, est vraiment très différent des codes iconographiques utilisés d'habitude. Donc on voit ici la Vierge et l'enfant auprès d'un ange, auprès de Saint Jean-Baptiste enfant. Et il y a cette espèce de chorégraphie des mains qui est un peu une des marques de fabrique de Léonard de Vinci, qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'une des dernières œuvres que je vais vous présenter, La Seine. Autre œuvre réalisée à Milan, La Dame à l'Hermine. En fait, il s'agit de l'une des maîtresses du duc de Milan, Ludovic le Mort. Et l'Hermine qu'elle tient, en fait, était l'emblème du duc. Donc c'est un clin d'œil, là encore, perceptible des seuls intéressés. Et la scène sur laquelle je voulais m'attarder pour terminer, c'était donc la scène. Mauvais jeu de mots. Donc, cette scène, elle est conservée à Milan. Elle avait été peinte pour l'un des couvents de la ville. Et on a donc les protagonistes, hein, les apôtres autour du Christ, dans une pièce qui ouvre sur un paysage qui évoque la Lombardie. Et à propos de cette scène, je voulais vous citer le témoignage de Vasari, qui rapporte une anecdote assez éloquente pour notre propos. Vasari écrit « Il fit encore à Milan, dans le couvent des Dominicains, à Santa Maria delle Grazie, une scène, œuvre merveilleuse et admirable. Il donna aux têtes des apôtres tant de noblesse et de majesté qu'il laissa inachevée celle du Christ, ne pensant pas pouvoir lui donner cette divine beauté que doit refléter l'image du Christ. Cette œuvre, restant ainsi pour finie, est toujours tenue par les Milanais en grande vénération et de même par les étrangers. » On raconte que le prieur du couvent sollicitait Léonard avec beaucoup d'importunité pour qu'il achevât cette œuvre. Il lui paraissait étrange de voir Léonard rester parfois une demi-journée comme perdu dans la contemplation, et il aurait voulu que, pareil aux manœuvres qui piochaient dans son jardin, il n'eût jamais arrêté son pinceau. Bien plus, il alla se plaindre au duc et fit tant que celui-ci se vit forcé de faire appeler le peintre. Ludovico s'y prit très adroitement pour le presser de terminer, lui faisant comprendre que la véritable raison était l'importunité du prieur. Léonard, connaissant la réputation et le tact du prince, voulut discourir longuement de la question avec lui. Il parla tout au long des conditions de l'art et lui fit comprendre que parfois, les esprits supérieurs, moins ils paraissent travailler et plus ils font de besogne, car ils cherchent dans leur tête les compositions et se forment ces idées parfaites que leur main vient ensuite exprimer et rendre, d'après les conceptions de leur esprit. Voilà, donc c'est emblématique du travail de l'artiste. un travail lent, aléatoire, très différent du travail de l'artisan qui obéit à une mécanique bien rodée. Et puis c'est emblématique au-delà de cette connivence intellectuelle entre le prince et l'artiste, emblématique de ce fructueux dialogue entre les deux protagonistes. Voilà, j'arrête ici ce panorama. Je voulais juste terminer en concluant en disant que cette Italie du Quattrocento, donc, j'ai insisté là-dessus en introduction, c'est une mosaïque de territoires, des territoires aux dimensions toutes relatives, du fait des convoitises des princes. Et pour ces princes, justement, il s'agit de montrer, de démontrer leur puissance, leur prestige, et au-delà, d'asseoir leur autorité. On est clairement dans le paraître. C'est un paraître protéiforme, c'est un paraître éphémère, lorsque les artistes ont à faire des décors de fête, dont malheureusement on n'a plus du tout le souvenir aujourd'hui. C'est un paraître plus pérenne, lorsque les artistes sont sollicités pour réaliser des œuvres peintes, des œuvres architecturales, des œuvres sculptées. Et puis on est aussi dans une forme de propagande, dans le sens où l'art est conçu comme un agrément pour l'esthète, ça c'est certain, mais l'art est conçu également comme un outil qui va promouvoir, qui va pérenniser les actions du prince, qui se veut à la fois chef, stratège, mais également homme de lettres et homme de culture, et on l'a bien vu à travers les portraits peints par ces artistes, notamment à travers la figure de Frédéric de Montefeltre à Urbino. Voilà.